civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spirou Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien de choses à vous. Combat qui vaille la peine d'être mené. Un combat pour tous et par tous. Un combat pour la survie de la société. Un combat toujours d'actualité. Un combat et un combat. C'est bien les exclamations que nous fait pousser le thème de notre jour, qui s'inscrit aussi bien dans le registre de la citoyenneté que du civisme. Nous voulons parler de la délinquance juvénile. Elle est un phénomène complexe liée au développement de la société urbaine et industrielle et à l'évolution des mœurs dans le monde moderne. Quelqu'un de chez moi dira que c'est une maladie européenne, que dans le bon vieux temps dans nos villages, c'est des choses qui n'existaient presque pas et qui n'existaient que parce que malheureusement, il y a une maladie intellectuelle de ce jeune-là. Aujourd'hui, c'est un problème d'ordre mondial. La délinquance juvénile ou la délinquance du mineur est au cœur du débat public depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, en raison surtout de sa croissance dans un contexte marqué par l'augmentation de la délinquance en général et du sentiment d'insécurité dans la société en particulier. C'est une notion qui intéresse à la fois le juriste, le sociologue, le psychologue. L'étude de ce phénomène répond en effet à un double objectif. Déterminer dans un but de prévention les causes qui poussent les jeunes à enfreindre les lois de la société, chercher les moyens les plus efficaces d'organiser la répression des actes antisociaux commis par les jeunes. Voilà les deux pistes, les deux angles sur lesquels nous allons parler de cette notion-là aujourd'hui. La délinquance juvénile n'est pas la simple impolitesse d'un mineur. Elle va au-delà de l'impolitesse pour devenir caractérielle en ce sens que le mineur qui devient délinquant devient une calamité, un problème, un phénomène pour la société. Il vole. Il poignarde des gens. Il escalade les maisons. Il tabasse. Il prend de la drogue. Il est, comme le dirait quelqu'un, antisocial. Comment on va prévenir ce comportement qui, si on veut utiliser un autre mot, est une déviance? Comment punir le jeune délinquant? Voilà les deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans notre émission de ce jour, tout en sachant et tout en rappelant que la notion est pluridisciplinaire et que ça peut appeler à d'autres formes d'analyse ou de commentaires. Et je nous invite tous à y réfléchir parce que c'est un problème véritablement actuel et de société.
Getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. People moving, oh, in the groove. Just getting the spirit in the dark. Feel like
la délinquance des mineurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut prendre différentes formes, notamment les vols, les violences, le refus d'obéissance à l'ordre social, les dégradations des biens, les trafics de stupéfiants, la prostitution, la cessation de la scolarisation, les actes de désordre, l'insolence, les insultes, les etc., etc. La liste est longue et elle s'allonge de jour en jour parce que nous constatons avec l'évolution du monde urbain que cette déviance-là prend beaucoup plus d'ampleur. Et ce qui est encore plus grave et qui complique le problème, c'est que les gens trouvent les comportements inciviques là tout à fait naturels ou normal, parce que on a habitué les gens à regarder ces choses comme si ce n'était rien du tout. Or, quelle société aurons-nous dans quelques années si tous nos jeunes se livrent à de la délinquance? La question est urgente. La question, elle est cruciale et ça appelle à la réflexion de chacun d'entre nous. On a essayé d'expliquer la délinquance en pensant que c'était un phénomène héréditaire, lié à des déficiences intellectuelles ou à des troubles mentaux. Car pendant longtemps, on ne pouvait pas concevoir qu'un mineur, un enfant, qui est encore à l'étape de l'éducation, qui doit être malléable à volonté, puisse être un délinquant si ce n'est pas une maladie, puisse être un délinquant s'il ne l'a pas hérité de ses parents. Et donc, on trouvait des excuses. De toutes les façons, c'était assez rare dans nos pays africains de trouver ces jeunes délinquants-là. On vous attachait, on vous flagellait et vous comprenez qu'il ne faut plus recommencer à faire du n'importe quoi dans la société. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que le fait d'interdire les châtiments corporels n'arrange pas, ne dérange pas, selon de quel côté vous êtes, la société? Est-ce que le fait que les enfants savent qu'on ne peut plus les tabasser, est-ce que le fait que les enfants actuellement ne peuvent recevoir des consignes que de leurs parents, le voisin du quartier n'ayant plus son mot à dire, les gens qui sont dans la rue n'ayant plus leur mot à dire, est-ce que nous ne préparons pas une société qui est visiblement retournée dans son sens inverse? Est-ce que nous ne continuons pas à fabriquer des gens qui demain vont être un danger public? Mais en réalité, la question est importante de se dire que la délinquance juvénile n'est pas simplement une maladie. Elle peut l'être, c'est vrai, mais ce n'est pas le trait qui est le plus déterminant. En effet, il faut plutôt voir dans la délinquance juvénile un ensemble de facteurs dont l'impact est plus ou moins important selon les individus. Ces facteurs peuvent être regroupés en deux grands axes. Les facteurs liés à la psychologie même de l'adolescent et à la fragilité qui caractérise ce stade du développement humain. C'est le premier axe. Le second, c'est les facteurs familiaux que nous allons englober dans les facteurs sociaux et étendre dans les facteurs socio-économiques. Et du coup, nous allons voir d'abord les causes qui peuvent être psychologiques avant de voir les causes socio-économiques. Les causes psychosociologiques résultent du fait qu'à la puberté, le jeune adolescent croit comprendre le fonctionnement de la société. Et il commence à faire des comparaisons, surtout par rapport à ce qu'il lit, à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend dans les médias. C'est l'occasion en même temps de rappeler à nous les adultes de savoir ce que nous mettons à la disposition des enfants comme médias. L'enfant va à l'école, c'est vrai. L'enfant lit des choses, c'est vrai. Mais que doit-il lire? Que doit-il voir? Si vous lui laissez l'opportunité d'aller sur Internet sans contrôle, il vous ramènera des lectures extraordinairement dangereuses. Il est donc important de restreindre son champ de lecture ou son champ d'amusement visuel ou audiovisuel. À la différence de l'homme adulte qui supporte volontairement certaines contraintes pour s'adapter à la société, parce que l'adulte sait qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire en public. Parce que l'adulte sait qu'il y a la société qui met des contraintes que nous aimions ou que nous n'aimions pas, que nous sommes obligés de respecter pour le vivre ensemble. Le jeune délinquant, par contre, rejette les valeurs de la société. Il la ressent comme injuste, comme difficilement acceptable, mais pire encore, comme si c'est des atteintes dirigées uniquement ou exactement contre lui. Et il considère les règles sociales comme étant des obstacles à la satisfaction de ses désirs. Exemple simple, il revient des cours, il n'a pas envie d'apprendre, c'est trop d'efforts pour lui. Si vous lui donnez l'occasion, il va préférer regarder la télé toute la nuit et repartir s'il le veut au cours. Aller au cours même, c'est pour lui une contrainte. Il y va parce que les parents ont dit d'y aller. Il trouve qu'on le gêne. Il veut faire du football. Il a vu un footballeur à la télé. Il pense qu'il peut lui ressembler en ne faisant pas d'efforts. Et c'est là le problème. Et pire encore, ce phénomène-là peut être accentué par des carences éducatives dues à l'affaiblissement de l'autorité familiale ou affective, surtout dans des situations où les parents sont désunis et où l'enfant souffre des tensions et des déséquilibres qui en découlent. Très souvent, les parents ne savent pas qu'ils sont, ou ils oublient. Ils savent, mais parfois ils oublient qu'ils sont les premiers modèles des enfants. Et leur comportement influe directement sur le devenir de cet enfant-là. Et donc, s'ils ont eux-mêmes des comportements qui ne sont pas corrects, ils oriente sans le savoir les enfants dans la délinquance. Un père qui habitue ses enfants à prendre la bouteille de whisky au glow devant les enfants, il ne peut pas s'étonner que son enfant devienne alcoolique. Ce n'est pas une transmission génétique, c'est simplement l'aspect visuel que vous avez développé dans la tête de l'enfant. Et si vous lui montrez de bonnes choses, ça influence également l'enfant. L'enfant qui voit un parent studieux, un parent organisé, qui range des choses correctement, il a envie lui-même de lui ressembler. Mais attention, il ne faut pas verser non plus dans le mouvement contraire, parce que à trop réguler l'enfant aussi, il se rétracte et le résultat contraire se produit. Nous reviendrons probablement dans une autre émission sur ces formes d'éducation, les formes d'éducation, à donner à nos enfants, encore que il n'y ait pas de règle qui soit efficace à 100%, mais retenons quand même que ce que vous faites est l'un des facteurs de la délinquance juvénile. Je parle évidemment de ce que font les parents ou les tuteurs, en tout cas les proches de l'enfant. Le second axe, c'est les causes socio-économiques. L'échec scolaire et plus généralement les difficultés d'insertion scolaire et professionnelle jouent également un rôle considérable dans la délinquance juvénile. L'adolescent qui se sent en marge va rechercher la compagnie de jeunes qui lui ressemblent, ce qui favorise un phénomène d'incitation et de passage à l'acte. Lorsque vous avez un enfant qui ne réussit pas à l'école, évitez de lui montrer plutôt qu'il est bête. Dites-vous simplement qu'il a son rythme et qu'il faut voir comment l'encourager dans ce rythme-là. Il ne doit pas se sentir exclu du groupe. Il ne doit pas se sentir tout bête et imbécile, parce que ça va l'obliger à chercher d'autres qui sont traités de la même manière, en commençant d'abord par se replier sur lui-même et à éviter la société. C'est également une responsabilité à la charge des enseignants, surtout des enseignants du primaire, qui sont très, très importants dans la vie d'une société. Cessons donc de fragiliser ces enseignants-là par des salaires qui sont des misères. Parce que si nos enfants sont mal formés à bas âge, c'est une des causes de la délinquance juvénile. Que ceux qui font les formations des enfants au cours primaire fassent ce travail-là par vocation, par envie, par joie, par souci de transmettre. Parce que s'ils ont tout cela en eux, ce qu'ils donnent est vraiment très bien, très correct, et les enfants en profitent. Mais par contre, si les gens vont à ce métier-là par nécessité, par dépit, et que malheureusement, ils ne trouvent pas les moyens pour pouvoir se faire valoir correctement dans la société, c'est eux qui deviennent des dangers. Ils insultent les jeunes. Les jeunes se replient sur eux-mêmes. Il y en a même qui n'ont pas une bonne moralité et qui vont aider les enfants à faire les pires conneries, notamment fumer, notamment se partager les stupéfiants, etc., etc. La bande est un danger pour les enfants. Et lorsque les enfants vont se mettre en bande contre la société, alors la délinquance juvénile est exacerbée. L'adolescent cherche à se créer une position à laquelle il aspire et qu'il ne trouve pas dans la vie scolaire. Ces facteurs sont parfois même renforcés, surtout dans les milieux urbains, par les inégalités sociales qui sont perçues de manière aiguë ou multiple, multiforme, mais qui ont le même dénominateur, c'est la misère. Cette misère qui entraîne ou qui induit de multiples sollicitations qui vont s'ajouter à la tendance naturelle de l'adolescent qui est toutes les fois enclin à la révolte. Cela explique la fréquence des vols d'objets associés à l'idée d'aisance, parce que l'enfant pense que quand il vole, lui aussi devient quelqu'un dans la société. Il va s'enrichir en volant. Et donc, il faut réaliser que les enfants doivent être en principe pris en charge entièrement par les parents. les enfants qui sont laissés à eux-mêmes et qui évoluent sur les dépotoirs, qui évoluent dans la vie, dans la rue, qui dorment dans la rue sous des hangars, ne peuvent pratiquement pas devenir autre chose que des délinquants juvéniles, que des délinquants mineurs, mais des potentiels criminels que nous fabriquons. Il faut donc faire en sorte que un parent ne devienne parent que s'il a un minimum à offrir à son enfant. Ou tout au moins, que l'État se décide à prendre en charge tous ces enfants-là qui ne sont pas pris en charge par des parents. Même si les parents sont très pauvres, ils peuvent offrir une éducation décente. Ils peuvent offrir à l'enfant des conditions de vie acceptables. Parce que le drame, c'est de démissionner parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour prendre en charge ces enfants-là. Et vous verrez ces enfants qui sont souvent abandonnés, qui ne vont plus à l'école. Parce que, par exemple, dans nos pays ayant franchi le seuil de la formation gratuite, ils sont laissés à eux-mêmes. Ceux qui ont meilleure fortune vont s'essayer dans un apprentissage qui est censé les aider, mais ils n'ont pas les moyens de signer des contrats. Et donc, ils vont grandir la masse de ceux que nous appelons les délinquants juvéniles, les délinquants mineurs. Et malheureusement, ça va être un terreau fertile pour les nouveaux problèmes, les nouveaux défis sécuritaires de nos jours. Ils seront très facilement embarqués par ces terroristes sans foi ni loi qui recrutent des jeunes pour aller tirer, tuer, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils se disent, ces jeunes se disent qu'ils n'ont plus aucune issue à part ces quelques billets de francs que vont leur miroiter ces vendeurs d'illusions et ces vendeurs de mort que nous appelons les terroristes.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Ce n'est pas les causes qui, en réalité, seules nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est surtout comment trouver des solutions. Comment faire en sorte que nous n'ayons plus de délinquants mineurs dans notre société. Parce que la délinquance des mineurs peut avoir des conséquences graves, aussi bien pour les jeunes délinquants que pour la société elle-même. Pour les jeunes délinquants, la délinquance peut entraîner une marginalisation, une exclusion sociale, un risque de récidive et une aggravation tendant vers une criminalité renforcée. Pour la société, la délinquance peut entraîner une augmentation de la peur et une baisse du sentiment de sécurité et un coût économique important parce que ça ferait beaucoup de personnes qui vivraient aux dépens de la société et qui vont faire du mal, vont détruire des biens et ce n'est pas une bonne chose pour la société. La lutte contre la délinquance juvénile est essentiellement sur deux plans. En tout cas, il y a deux réponses qu'on peut donner à cette déviance. La première réponse, elle est sociale. Et la deuxième, elle est juridique. Les spécialistes s'accordent à dire que la sanction a une place dans l'éducation, mais ne peut pas être la seule mesure prise à l'encontre des mineurs. Autrement dit, il faut sanctionner le mineur pour que ça soit d'abord un exemple pour éviter que les autres puissent suivre ses traces. Mais il faut également sanctionner pour que le mineur lui-même comprenne qu'il est sorti de ce qui est permis de faire. La sanction est importante, mais elle est encore mieux lorsqu'elle est sous forme préventive ou alors lorsqu'elle est sous forme éducative. Prendre des mesures qui vont permettre de prévenir la délinquance par l'éducation. Prendre des sanctions qui vont permettre de faire cesser la délinquance par l'éducation. Le maître mot devient alors l'éducation. Le traitement imposé aux jeunes délinquants n'aura de sens que s'il leur permet de se réhabiliter et que si ça leur redonne des chances d'insertion. En outre, la lutte contre la délinquance juvénile dépend pour une bonne part de l'efficacité des méthodes de prévention mises en place pour protéger les jeunes et pour les aider. La prévention par l'éducation, elle va être le fer de lance de cette lutte contre la délinquance juvénile. Je mets dans l'éducation l'information, la formation, la sensibilisation. Pour lutter contre la délinquance des mineurs, il est important de s'attaquer aux causes profondes et c'est des actions de prévention que nous appelons l'éducation, qui peuvent véritablement nous permettre de triompher. Informer les enfants, c'est-à-dire leur présenter ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est mal et ce qui est bien. Malheureusement, quelle sera la norme? En tout cas, pour sa réussite, la norme n'est pas subjective. C'est-à-dire que ce n'est pas à chacun de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous avons des repères et ces repères existent dans les règles sociale. Il y a les règles de la morale qui semblent, j'allais oser dire, universelles. Même si la morale n'est pas si universelle que ça, et que la morale a commencé par ne plus avoir de l'importance aux yeux de beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons qui milite pour la prolifération de la délinquance juvénile. Ce qui était accepté avant comme le mal, aujourd'hui est vu comme « ok, c'est pas grave ». Et puis après on dit « ok, d'ailleurs c'est bien ». Et après on dit « c'est d'ailleurs ça qu'il faut faire ». On ira même jusqu'à accepter facilement les alliances contre nature, les comportements anormaux. On va commencer par dire « oh bon, ce n'est pas si mal que ça ». Si c'est ceci, donc on peut pouvoir tolérer. Et après, on se rend compte que c'est tard pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Reprenons la morale. Retournons aux années 1970 avec les règles de morale qui existaient. Et ces règles de morale qui ont été en partie inspirées par les règles de la religion. Même si vous ne croyez pas en Dieu, obéissez au moins à ces règles-là, parce que ces règles-là permettent d'avoir un meilleur vivre en société. Quelle que soit la règle sociale que vous prendrez, tuer n'est pas accepté, voler n'est pas accepté, tricher n'est pas accepté, etc., etc. Donc, c'est vraiment fondamental de prendre ces règles-là comme les normes, comme les barèmes à suivre pour éduquer nos enfants. On ne vous demande pas de dire « Oh bon, maintenant le monde a évolué, donc ça là on peut accepter aujourd'hui. » C'est accepter aujourd'hui là qui nous a amené à là où nous sommes. Donc, première chose, l'information, la bonne information. Usons des normes sociétales qui existaient depuis et qui étaient fondamentales pour le bien vivre ensemble. La formation, j'en avais déjà parlé, avec une invitation aussi bien aux parents qu'aux enseignants, aux éducateurs. On ne doit plus avoir uniquement des enseignants, on doit avoir des éducateurs, des gens qui donnent des formations complètes. Pas seulement des informations livresques, mais des informations en tout. Rappelons-nous que autrefois même, le maître amenait les enfants au champ pour leur apprendre à labourer. Aujourd'hui, on vous dira que c'est de la torture. Aujourd'hui, on vous dira que ce n'est pas normal, que c'est l'enseignant qui va profiter du travail manuel des enfants. On oublie que l'enfant apprend d'abord à faire ce travail manuel et ensuite à acquérir ce que nous appelons l'amour de travail gratuit. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus rien faire sans demander une contrepartie financière. Et c'est parce que la formation que nous leur donnons n'est plus l'éducation, mais n'est que l'enseignement. Allons au-delà de l'enseignement, éduquons les enfants, les parents, les enseignants, et que les parents acceptent que le voisin du quartier, que le voisin ou toute personne qui rencontre leur enfant en train de faire ce qui n'est pas normal, puisse être réprimandé. À la limite, recevoir une petite correction, parce que ça y va de l'intérêt de nous tous. Ces parents qui pensent que personne n'a le droit de dire mot à leur enfant dans leur éducation, c'est ces parents-là qui nous compliquent la vie. La sensibilisation, elle est alors du ressort de l'État. Que l'État multiplie les productions visuelles et audiovisuelles qui montrent à l'enfant ce qui est bien pour lui permettre d'éviter ce qui est mal. Je me rappelle encore quand on était, nous, à l'école primaire. On faisait une émission dans les écoles qu'on appelait émission scolaire, où on vous apprenait plein de choses à faire, où on vous donnait des éducations civiques et morales. La belle époque, elle est partie. Aujourd'hui, un garçon est capable de traverser en plein milieu un attroupement de grandes personnes en train de faire une réunion. Il trouvera ça tout à fait normal. Ils n'ont même plus peur de voir un cercueil. Ils veulent voir celui qui est même dedans. Quelle société! Et on va dire, c'est l'évolution. Laquelle? La positive ou la négative? Que toutes les autorités de l'État, administratives, religieuses, traditionnelles, etc., regardent de très près la question de l'éducation de nos enfants. Ça ne coûterait pas grand-chose de faire des productions visuelles pour montrer comment un petit garçon doit pouvoir dire bonjour à toutes les grandes personnes qu'il croise. Ça ne nous coûterait pas mal que, par exemple, on montre à la télé qu'on peut faire un travail gratuit, qu'on peut balayer la devanture de la maison du voisin pour éviter que le vent ne ramène devant chez vous les sachets de plastique, que c'est pas bon de jeter les pots de banane au sol, etc., etc. On va diminuer le taux de délinquants mineurs que nous avons. Ça, c'est la première possibilité que nous avons, que nous mettons dans l'éducation. Il y a beaucoup de citations qui disent que tant vaut la nation, tant vaut l'éducation, etc., etc. C'est l'occasion de nous rasseoir pour réfléchir là-dessus. Les grosses théories sont là, mais qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que c'est devenu dans la pratique? À chacun de se poser la question pour que nous puissions aider nos jeunes enfants à ne pas devenir des délinquants. C'est dit quelque part dans la Bible que nous avons le choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Que choisirons-nous? Quelqu'un dira, en tout cas, moi et ma maison, nous choisirons de. Alors que chacun fasse son choix. Et que le choix soit le meilleur. Et que ça soit inculqué à nos enfants pour éviter d'avoir des délinquants. Mais en dehors de ça, il y a une autre réalité que l'État doit prendre en charge. C'est la lutte contre la pauvreté. Parce que si la pauvreté est là, c'est difficile de pouvoir faire raisonner un enfant qui n'a pas mangé. Quelqu'un dira, ventre affamé n'a point d'oreille. Comment vous pouvez dire à un enfant d'être correct s'il n'a pas mangé? On connaît jusqu'à quelle limite le ventre vide peut vous pousser. Et cette limite-là, ces actes que vous pourrez faire, qui sont dictés par la nécessité, sont dans l'antichambre de la délinquance. Il faut donc que l'État garantisse à tous les citoyens de tous les pays le minimum de confort, que chacun puisse manger au moins deux fois dans la journée. Parce que si l'enfant n'a rien à manger toute la journée, la délinquance juvénile ne peut pas s'arrêter. Il faut que l'État permette ce que nous appelons la fin de l'exclusion sociale. Que chacun se sente dans son pays à l'aise. Parce que si les gens ne sont pas à l'aise, si les gens ne se répondent pas de la société, ce n'est pas une bonne chose pour la société. Et ça induit le troisième élément, la troisième prévention toujours au niveau de l'éducation, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale qui résulte de la justice sociale. La cohésion sociale qui résulte de la fin de l'impunité. La cohésion sociale qui est le fruit du fait que tu mérites par rapport au travail que tu effectues et non un mérite par la naissance. Personne ne doit être favorisé ou défavorisé alors que l'autre est dans le cas contraire, mais de façon indue. Chaque travailleur mérite son pain. Faisons en sorte que le pain qui est rétribué pour le travail de chacun réponde véritablement à ce travail-là. Ce serait une exhortation au travail que nous lancerons aux jeunes. Et ils répondront mieux. Et ils refuseront toute mauvaise sollicitation. Et la société s'en porterait mieux. Et la cohésion sociale sera là. Et on pourrait vivre fraternellement. Et on pourrait alors répondre avec joie aux idéaux que les pères de l'indépendance ont donnés à chacun de nos pays en Afrique. Parce que toutes les devises sont délicieuses à entendre. Mais qu'en avons-nous fait après plusieurs années d'indépendance? La question se pose. Et c'est une question à laquelle chaque individu doit répondre. Ce n'est pas seulement les gouvernants qui sont en question. C'est aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Mais que les gouvernants donnent l'impulsion qu'il faut pour que la cohésion sociale puisse exister, pour que l'injustice soit boostée hors de nos frontières et pour que la délinquance juvénile puisse définitivement être un souvenir. Dans tous les cas, en dehors de l'éducation, la justice, le droit est également un facteur de diminution de la délinquance juvénile. Mais le droit a deux aspects. Il y a l'aspect préventif et il y a l'aspect curatif. Mais particulièrement dans la délinquance juvénile, ce qui est plus important, c'est l'aspect préventif. Même lorsqu'on punit le jeune, il faut que cette punition-là soit pour lui montrer qu'il ne doit plus recommencer. Il faut l'empêcher de faire ce que nous appelons les récidives. Il faut qu'il comprenne qu'il avait mal agi et qu'il décide de ne plus faire comme cela. Ce n'est qu'à ce prix que la lutte est bonne. Ce n'est qu'à ce prix que la mesure est idéale. Et donc, nos lois doivent faire en sorte que le jeune délinquant qui est puni puisse dire « Ok, oh, maintenant j'ai compris la leçon, je change de vie. » S'il doit pouvoir comprendre ça comme si « Oh bon, de toutes les façons, on n'aura qu'à me punir et puis bon, la vie continue, je reprends. » Alors nous aurons, nous les adultes, échoué et nous en subirons tous les conséquences négatives. Ailleurs, sous d'autres cieux, on a essayé beaucoup de remèdes. On a tracé beaucoup de pistes. Et nos pays africains en ont pris. Nos pays africains en ont imité. C'est peut-être un rappel que je ferai. C'est peut-être une information que je donnerai. Mais il y a des pistes qui me semblent très intéressantes à cultiver pour permettre de lutter décemment contre la délinquance juvénile. Une des mesures, c'est la surveillance. Lorsqu'un mineur a commis un acte répréhensible et que l'enquête socio-pédagogique effectuée met en évidence la nécessité des mesures éducatives ou thérapeutiques, le juge doit donner des indications aux parents ou aux gardiens du mineur qui devrait le surveiller, éventuellement lui donner des soins adéquats et lui assurer une formation et des loisirs judicieux. Mais tout cela sous le contrôle d'une personne qui doit être un parent ou qui doit être un agent de l'État. Il faut donc créer des systèmes d'assistance sociale qui suivent les enfants, qui suivent surtout les enfants indélicats, les délinquants. Il faut les suivre dès le départ. Mais il faut une analyse thérapeutique pour voir si ce n'est pas un problème psychologique qui commence par s'aggraver et porter en temps opportun des solutions à leur éradication. Il faut donc une surveillance constante de l'enfant, surtout de l'enfant qui est déjà catalogué comme un délinquant. À côté de la surveillance, il y a l'assistance personnelle. Il s'agit alors pour le juge qui a reçu un délinquant de lui trouver quelqu'un qui va l'accompagner régulièrement. Cela implique que cette personne-là doit être régulièrement en contact avec le délinquant pour lui prodiguer des conseils, pour lui prodiguer des choix, pour l'assister dans sa vie. Et naturellement, ça doit être un animateur socio-éducatif qui a reçu une formation. Donc ce n'est pas au hasard. Il faut donc former des animateurs socio-éducatifs pour aider ces gens-là. Il y en a peut-être qui auront besoin plutôt d'un traitement, un traitement thérapeutique qui peut être ambulatoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre l'enfant et de le caser quelque part pour dire « Bon, toi, tu es malade et tu restes ici. » Il va et le soir, il retourne à la maison. Mais on crée pour lui un centre, un lieu où il fait des rencontres éducatives qui lui permettent de se découvrir d'abord et découvrir ce qui est bien pour la société. Donc, ce traitement-là est également une piste intéressante. Ou alors, tout simplement, il faut déplacer l'enfant et le mettre dans une maison d'éducation. Ou alors, chez un parent qui a les moyens de lui donner une meilleure éducation. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser l'enfant dans une situation de précarité qui engendrerait pour lui des envies de mal faire. Mais si tout cela ne semble pas marcher, il faut hausser le ton. Il faut réprimander l'enfant. Il faut lui donner une punition qui lui montrerait que, en tout cas, il n'est pas le plus fort. C'est vrai que ce n'est pas forcément le châtiment corporel, mais une privation qui peut être une privation de liberté, qui peut être une privation de jeu, qui peut être une privation d'amis pour un temps, histoire de lui montrer que sa liberté est liée à son comportement. S'il se comporte bien, il va avoir sa liberté. Et s'il se comporte mal, on le prive de quelque chose. C'est vrai que il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait évidente. Je me rappelle encore une époque où à l'école La Marina, quand tu fais une faute, on te donne à manger du pain sec. Et c'était l'époque où c'était les petits blancs qui étaient là-bas. Et je rêvais d'aller à cette école-là parce que le pain sec était très délicieux pour moi. Malheureusement, avant que je n'y arrive, les petits blancs sont partis. Et on nous donnait des coups de bâton. Ce n'était pas du pain sec. On nous a montré que si tu fais mal, tu reçois des coups. Mais attention, il ne faut pas habituer l'enfant aux coups. Parce qu'à un moment donné, quand il s'habitue, il peut faire parce qu'il sait qu'il ne va pas ressentir de la douleur que pour un moment. Privez-le d'autre chose. S'il aime manger, diminuez sa ration. Ou alors, empêchez-le de manger pendant un temps avant de lui donner. Qu'il mérite. Qu'il montre que, ah, maintenant, il a compris. Mais surtout, arriver à lui faire aimer la lecture, et donnez-lui des bouquins dans lesquels on montre la vaillance de quelqu'un. On montre la beauté de la bonté. La beauté de la bonté. Il y a dans l'âme de chaque enfant une lumière qui attend qu'on la fasse briller. Montrez-lui ça à travers les lectures. Montrez-lui ça à travers l'amour que vous lui portez pour que nous n'ayons plus trop de délinquants dans nos pays, dans nos villes, dans notre continent, sur la terre entière. En attendant que cette volonté, que ce souhait ne devienne réalité, nous, ici à Civisme et Droits du Citoyen, nous vous disons au revoir parce que notre émission prend fin. Prochain rendez-vous mardi prochain. Que Dieu vous garde. Portez-vous bien.